C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Alors, on commence ce matin par le dossier Northvolt et hier, le PDG Paolo Cerutti, qui a fait le point sur l'évolution des travaux et toutes les controverses qu'on connaît, a dit « Si nous avons fait des erreurs dans la présentation, préparation du projet, elles ont été faites de bonne foi. » Est-ce que vous le croyez, Nathalie?
Oui, oui, nous devons le croire, monsieur Paolo Cerutti. Je n'ai pas dit Normand Marino en passant.
Normand Marino.
Là, je te trouve tellement bonne, écoute.
Tu mets ça dans le tiroir, puis tu ressors pas ça avant une demi-heure, là, parce qu'on va venir fou dans cette émission.
On va venir fou. Alors oui, moi, je le crois, le PDG de Northvolt, tout d'abord, il n'a aucune... l'entreprise n'a aucun avantage à se mettre les citoyens à dos. D'ailleurs, à partir d'un sondage réalisé par Northvolt, l'entreprise a constaté qu'un pas important de la population de McMasterville, Saint-Basile-le-Grand, la hauteur de 80 % appuie le projet. C'est 70 % pour la population environnante. Hier, ils ont fait un exercice d'une très grande transparence que je salue. Ils ont convoqué la presse. Une trentaine de journalistes étaient présents. 2 heures de briefing technique pour les journalistes. 1 heure de conférence de presse. Et là, ils ont confirmé plusieurs choses fort intéressantes. Tout d'abord, 7033 CV reçus pour combler les 3000 postes visés avec cette usine. Cette future giga-usine, c'est une giga-usine, 138 millions de dollars accordés en contrat à des entreprises d'ici dans un délai de 6 mois. Ils ont également confirmé que l'entreprise aura besoin d'une douzaine d'autorisations environnementales auprès du ministère de l'Environnement. Entre autres, ils ont confirmé la mise en place d'un comité de liaison avec les citoyens. Il y a 98 citoyens qui ont levé la main pour dire « Ouais, moi je suis prêt là, à travailler » avec l'entreprise. Alors, Northvolt a fait un exercice important hier qui, selon moi, était nécessaire compte tenu de toutes les critiques dont elle a fait l'objet depuis l'annonce de l'entreprise.
Ben oui, moi, je remets pas en cause leurs paroles puis leurs bonnes intentions. La question, c'est juste de savoir comment on s'y est pris. Puis pourquoi est-ce qu'on a tenté d'éviter le BAP? Alors, la réponse qui a été donnée par l'entreprise, c'est qu'ils ont un gros contrat, avec un client privilégié. On pense que c'est Volkswagen, qui achèterait la moitié de la production. Et compte tenu de cet achat-là, voulait produire, passer le plus rapidement possible à travers les étapes. Alors, de là, le problème. Mais passant consultation publique, ça aurait été possible, un BAP, ça aurait été possible, même accéléré. Je vois pas pourquoi l'État s'est obstiné à vouloir faire les choses en disant, regarde, ça, c'est des affaires pour les hommes importants, on va les gérer en trompe dans le bureau du premier ministre. Non. Il aurait pu décider d'ouvrir ça. Un peu. Parce qu'il y a une conversation intéressante à avoir autour de Northvolt. D'abord, il n'y a pas une usine dans le monde de cette taille-là qui n'a pas fait l'objet de manifestations par la population. En Allemagne, en Hongrie, etc., c'est le cas. C'est une immense usine. Il y a une question de rejet d'eau. Il y a deux prises d'eau potable en aval de l'usine de Northvolt. De savoir c'est quoi l'eau qui va sortir de Northvolt, c'est pas une question inintéressante. Compte tenu de ces deux prises d'eau-là, puis compte tenu aussi de la présence du chevalier cuivré, c'est-à-dire une espèce en voie de disparition. Et je répète, les espèces en voie de disparition, la raison pour laquelle c'est important, c'est à cause du processus légal qui les entoure. Le gouvernement fédéral peut être poursuivi par lui-même si jamais il ne respecte pas la zone de protection. Donc, d'ailleurs, le président Cerutti, le PDG, il l'a dit que ça l'inquiétait. Il a dit, ça m'inquiète, c'est un risque de faire, d'avancer, puis de penser qu'à un moment donné dans le processus, je serais arrêté pendant des mois parce que j'aurais pas respecté une étape environnementale. Donc, ça aurait été plus intelligent de le faire différemment. Et plus intelligent aussi, parce qu'il y a une question importante, puis il aurait pu avoir un appui de la population. Une question importante qui est de savoir, ça va-tu marcher? On va-tu les vendre, ces batteries-là? Est-ce que, compte tenu de la concurrence de la Chine, on va être capable? Puis en Europe, la discussion publique sur ça est arrivée à la conclusion que va falloir mettre des contraintes à l'importation des produits chinois, des contraintes tarifaires à l'importation des produits chinois pour défendre l'industrie européenne. Fait que c'est le genre de discussion publique ouverte qui aurait enrichi le projet.
Ouais, mais en fait, d'ailleurs, Northvolt lutte contre les Chinois et la Corée du Sud également. Alors, puis Northvolt, c'est la carte maîtresse pour l'Europe, pour l'Occident, pour se positionner sur le marché de la batterie, de la filière batterie. Moi, je crois que le problème, le dérapage auquel on a assisté, parce que je le qualifie de cette façon, parce que pour moi, si un joueur a blâmé, c'est le gouvernement qui n'a pas fait son travail. Et là, que j'ouvre une parenthèse, si le gouvernement avait opté pour un BAP accéléré ou un mini BAP, peu importe comment tu l'as appel. Je suis convaincue que les groupes écologistes auraient levé la main pour dire « C'est un scandale, Monsieur le Président, ça n'a pas de bon sens. » Je referme la parenthèse. Selon moi, trois choses expliquent ce dérapage. Premièrement, l'échéancier serré avec lequel travaille l'entreprise, parce que le temps, c'est de l'argent, et qu'elle doit livrer ses batteries en 2026. En passant, elle est confrontée, elle travaille avec le même échéancier dans ses autres usines. Norvolt a donné l'impression d'être pressé et de ce fait, de projeter l'image d'une entreprise qui contournait les règles en matière environnementale. On s'entend, on est dans le domaine des perceptions, là. Il s'agit en aucun temps de réalité. L'autre raison, selon moi, c'est l'absence de règles environnementales dédiées spécifiquement à la filière batterie. J'insiste, il y a la loi sur la qualité de l'environnement à laquelle est assujettie l'entreprise, mais il n'y a pas de règles spécifiquement dédiées à cette filière qui est nouvelle au Québec. À un moment donné, les libéraux ont levé la main, ils ont dit ça prendra un BAP générique pour identifier, pour qu'on puisse cartographier sur le plan environnemental des règles qui s'adresseraient spécifiquement à ce secteur. Et selon moi, le manque de transparence du gouvernement et aussi le ministre de l'Environnement, tu sais, qui s'est pris pour le ministre de l'Économie plus que le ministre de l'Environnement. Et ça, je pense que ça a contribué au dérapage. Et si vous pensez que ça va vite au Québec, là, ben en Allemagne, le 25 mars dernier, le chancelier allemand a confirmé, a donné le feu vert à la construction de l'usine 2 mois après que l'Union européenne ait confirmé son financement.
Alors, moi, je veux dire une chose. Je suis convaincu depuis le début dans toute cette affaire-là, là. C'est qu'on perd la perspective historique dans le sens suivant. Est-ce qu'il est de bonne foi, sans aucun doute? Mais là, tu as une entreprise qui est un géant, mais un géant fragile, là. C'est une entreprise qui démarre vraiment, là. C'est pas une entreprise comme GM puis Volkswagen, là.
Elle date de 2016.
Ben, c'est ça, c'est nouveau. Mais c'est une grosse entreprise fragile, puis qui a besoin de vendre ses produits, puis qui a un échéancier, puis qui a des compétiteurs. Ils arrivent, puis ils rencontrent les ministres du Québec puis du fédéral. Là, ils disent, on est prêt à investir. Qu'est-ce que vous nous donnez? Ben là, on vous donne, un, de l'argent, puis deux, on va vous faciliter la vie pour que vous puissiez construire le plus rapidement possible. Je suis convaincu que ça s'est fait de même.
Ben exactement.
Ben, il y a où le problème, les amis? Il y a où le problème dans ce que tu décris, Paul?
Non, mais
en Allemagne,
c'est les aides sont beaucoup moins importantes qu'ici.
Ben, pourquoi? Parce que l'usine est moins importante. Excuse-moi, Luc, là-bas, ils vont juste faire les cellules. Mais ici, on a tout le processus,
qu'on avait oublié qu'on avait des règles établies ici, comme l'histoire du BAP. Puis après ça, on a changé un petit peu les affaires pour s'assurer que le BAP soit pas un obstacle. T'sais, est-ce que si on avait dit à Nordvolt, regardez, vous allez vous lancer dans un processus, on va étudier votre projet pendant 3, 4, 5, 6 mois, puis peut-être plus, puis même un BAP accéléré avant qu'elle rapporte. Tu comprends, il y aurait eu des délais. Est-ce qu'il serait venu pareil?
Oui qu'il serait venu pareil.
Je sais pas.
Attends. Moi, j'ai voulu répondre à ce que tu viens de dire. Je pense que c'est le cœur de l'affaire. Quand Google a voulu installer son centre de données à Beauharnois, il est rentré dans le building pour rencontrer Legault. Il a dit, où Legault? Ben, il a dit, il est là. Il dit, non, là, je vois juste un tapis. Ben, il dit, c'est lui. Parce que il y avait un terrain qui était... Tout à coup, la protection du territoire agricole n'avait plus d'importance. Il y avait un terrain à côté qui n'était pas zoné agricole, qui était entièrement disponible, juste à côté, proche d'une ligne de haute tension, répondant aux critères. Non, il a fallu mettre fin à la politique qu'on a depuis des années de protection des terrains agricoles. Quand Terce a voulu s'installer à Shawinigan, on l'a dit, OK, vous allez pouvoir produire votre propre énergie à 30 km et la transporter jusqu'à l'usine, totalement nouveau. On met fin au monopole d'Hydro-Québec. On se demande d'ailleurs, est-ce que la ressource est gérée par quelqu'un ou tu peux t'installer à peu près n'importe où. On a mis fin au monopole. On va passer une loi pour permettre à Tesla de faire des choses. Encore là, on s'est transformé en tapis. S'il y a une raison intéressante, s'il y avait une raison pour justifier un BAP, ça aurait été Nordvolt. Un projet comme Nordvolt, ça justifie un BAP. Un BAP accéléré, un BAP qui répond aux besoins de l'entreprise, un BAP qui met pas fin au projet.
Je te dis pas que t'as tort,
Non, je sais, mais ce que je dis, c'est, non, au contraire, je dis la même chose que toi. Je dis, on n'est pas obligé de mettre fin à toutes nos institutions.
Mais juste finir, parce que le temps file, là, puis Nathalie aussi. La ville de Montréal n'est pas en train de scraper des milieux humides pour des projets?
Je le sais pas.
Mais vu ça?
Oui.
C'est pas fait, c'est en réflexion, mais je vais fouiller pour trouver ça. Mais
c'est possible. Tu sais que Hydro-Québec veut doubler le nombre de lignes à haute tension sur le territoire de la ville de Montréal. Ça se peut que il y a des postes de transformation là-dedans. Que ça, c'est très possible. Il y a aussi des projets de transport, comme par exemple Souligny, le contact Souligny Notre-Dame, qui va passer par un milieu humide. Oui, il y a des projets publics. Est-ce que ce serait des projets d'autres types? Ça, je ne sais pas.
Okay. On va s'arrêter là-dessus. Les zones inondables, justement, on parle des milieux humides et tout ça, puis avec les changements climatiques, on le sait, puis il y a des riverains qui se retrouvent dans des situations où ils sont forcés carrément de déménager, ou en tout cas, ils peuvent pas faire des travaux d'adaptation de leur résidence.
La commission Normando-Ferrandaise.
Parlons des zones inondables. Évidemment, on est tous conscients de l'impact des changements climatiques. On l'a vu, là, les cas de météo un peu plus extrêmes, des inondations. Il y a des gens qui vivent dans des coins depuis longtemps. Et là, on a une nouvelle carte de ces zones inondables, ce qui fait que ça complique la vie de gens qui vivent dans des quartiers de Montréal ou à l'extérieur depuis longtemps. Ils peuvent pas agrandir, ils peuvent pas adapter, ils sont coincés dans leur maison. Est-ce que on devrait avoir un plan spécial, une mesure d'ensemble pour ces citoyens qui sont touchés, Luc?
Non. Parce que ça coûterait des milliards et des milliards et des milliards, parce que on s'entend là, ça va avoir une, tu sais, on va enlever les codes de 0,20 puis 0,100. Donc, les codes 0,20 puis 0,100, c'est 0,20 ans, 0,100 ans. Est-ce que une catastrophe peut arriver à tous les 0,20 ans? Ça donne tel type de risque, tel type d'assurance, tel type d'aménagement du territoire. 0,100 ans, c'est différent. On enlève tout ça, puis on remplace par des cotes d'évaluation du risque. Parce que le 0,20 ans, c'était déjà mal exprimé. C'est-à-dire que ce que ça voulait dire, c'est que le risque peut revenir à chaque année, mais il y a 1% 1% des chances qu'ils reviennent pour un 0-100 ans. Il y a 5% des chances qu'ils reviennent pour un 0-20 ans. Maintenant, ce 1%-là et ce 5%-là sont boostés dans le tapis. Et donc, ça modifie complètement la capacité d'un citoyen de s'assurer et puis de revendre sa maison, parce que s'il n'est pas assurable, puis s'il n'est pas reconstruisible, la maison, ben, tu peux pas vraiment la vendre. Donc, il y a un risque énorme. Il y a des pertes. Évidemment qu'il va falloir réfléchir à ça dans son ensemble. Mais de prétendre que l'État va être capable de acheter à leur valeur toutes les maisons qui sont là, non, ça se passera pas. Il y a des dizaines d'impacts climatiques énormes, gigantesques devant nous. C'est commencé. On a vu avec l'hiver comme on a eu, là. Il y a des pentes de ski qui ont perdu toutes leurs revenus, ou une bonne part de leurs revenus, mais en trois comme ça de suite, puis tu peux être certain qu'il y a toute l'industrie du ski qui fait faillite. Même chose pour le ski doux, même chose pour en région, tout le tourisme qui est relié au ski doux. On a vu qu'il y a des maisons qui ont eu des inondations, pas des inondations, des reflux d'égout à répétition, notamment à Montréal, à cause des pluies qui sont plus violentes depuis deux étés. Il y a la disparition de la crevette, on l'a vu aussi, pas de compensation pour la disparition de la crevette. Il y a des lacs de faible profondeur qui vont se couvrir d'algues au fur et à mesure où il va manquer d'eau. Il y a des pourvoiries qui ont été obligées de mettre fin à leurs opérations parce qu'il y a eu des incendies de forêt dans la zone où ils étaient situés. Il y a les agriculteurs de l'Abitibi qui n'ont pas eu d'eau cet été, qui ont perdu 85% de leur récolte, et ainsi de suite. Et ça va augmenter avec les années. De dire, on prend un pactole de l'État puis on le met juste sur les maisons qui sont dans des zones inondables, c'est absolument superficiel comme proposition.
Ouais, ben tout d'abord, moi je suis opposée à ta façon de voir les choses, Luc, puis j'explique que tout d'abord, cette nouvelle carte des zones inondables va être rendue publique quelque part au printemps, et si vous croyez que la réforme de la santé va être difficile de mettre en œuvre, ça sera de la petite bière comparée à la gestion des impacts qui seront liés à la publication de cette nouvelle carte des zones inondables. Puis je le dis parce que dimanche dernier dans la presse, il y avait un article qui touche mon village, Maria, ma communauté,
oui,
à propos des impacts liés au changement climatique.
Il disait que c'était magnifique.
Oui, c'est vrai, effectivement. Ouais. Une seule rue, là, une quarantaine de résidents qui sont touchés. Déjà, la sécurité civile offre une compensation de 385 000 par maison pour ceux et celles qui veulent quitter. Alors ça, c'est un petit échantillonnage par rapport au tsunami auquel on va faire face, parce que à peu près, ben dans quoi, il y a 60% pratiquement de la population là qui est touchée d'une manière ou d'une autre au Québec par le Saint-Laurent. Fait que ça ne comprend pas les autres cours d'eau. Alors puis on parle de la région de Montréal, la Mauricie, de la Côte-Nord, les îles de la Madeleine, érosion des berges. Enfin bref, je vous dis, là, quand je vous parle de tsunami, là, ça va être l'enfer tantôt. Avant d'avoir un plan, ça prend un portrait. Là, on va avoir la carte des zones inondables, c'est parfait, mais le portrait, j'espère que le ministère de l'Environnement planche sur, par exemple, à combien de résidences, à combien on estime le nombre de résidences qui pourraient être touchées prépare, par exemple, un risque imminent d'inondation? Parce que Luc, quand tu dis que l'État n'a pas le moyen de racheter toutes les maisons, je suis d'accord avec toi. Actuellement, l'enveloppe, c'est 75 millions de dollars. On s'entend, on est loin du compte. Par contre, ça ne veut pas dire qu'avec la nouvelle carte des zones inondables, toutes les résidences visées par cette nouvelle carte feront l'objet d'un programme de rachat. Il y a un hydrologue dans l'article de la presse qui est fort intéressant, qui s'appelle Michel Leclerc. 50 ans d'expérience, le monsieur à son actif. Lui propose trois solutions. Un certificat de résilience pour les maisons immunisées contre les crues. Par exemple, des maisons sur pilotis ou celles qui ont un vide sanitaire. En fait, les maisons qui ont fait la démonstration qu'elles peuvent gérer le fait de composer avec des inondations à répétition. Deuxièmement, il dit ça prend un programme pour s'adapter. Donc, par exemple, une municipalité qui décide de changer ses infrastructures, de par exemple, d'égouts ou d'aqueducs pour faire face à un plus grand nombre d'inondations, est-ce qu'elle pourrait être recevoir non seulement une demande d'aide financière, mais est-ce que ça pourrait avoir un impact sur la façon dont sa municipalité est positionnée dans cette future carte des zones inondables, puis effectivement un programme de rachat des maisons. C'est extrêmement complexe, l'exercice auquel on est confronté. Le ministère de l'Environnement ne travaille pas en vase clos. Et moi, je dis aux députés de l'Assemblée nationale, arrêtez de faire de la petite politique avec ce dossier-là. Ce dossier-là, c'est un enjeu qui doit être abordé de manière non partisane. Et il y a des députés à l'Assemblée nationale, dont Virginie Dufour, qui est une ancienne conseillère municipale de Laval, qui a une expertise dans le domaine. Pourquoi ne pas la mettre à contribution? Pourquoi ne pas mettre à contribution les joueurs du privé qui ont une expertise pour avoir une carte qui soit la plus réaliste possible? Parce que tu peux avoir des zones inondables, là, puis augmenter, contribuer à avoir un risque plus élevé. C'est la réalité, là. On a la fréquence des inondations est plus importante. Mais dans les faits, là, il va se passer quoi? Déjà que Desjardins a décidé dans les zones inondables de ne plus d'accorder d'hypothèques pour les zones qui sont dans 0-20 ans. Alors, c'est quand je vous dis que c'est gros, là, mais c'est gros, oui. C'est très, très gros. Mais Nathalie, c'est gros comme on n'a jamais vu.
Oui, c'est parce que c'est si gros que je me dis que c'est impossible de le faire avec un programme de rachat. Et d'ailleurs...
Faut le faire intelligemment.
C'est ça. D'ailleurs, j'aime beaucoup l'idée sur la résilience. C'est la même idée que la FEMA utilise pour les ouragans aux États-Unis. Donc, est-ce que tu avais prévu une diminution des impacts dans la façon de construire, etc. Et à ce moment-là, par exemple, relever des maisons, ça s'est passé le long de la rivière Gatineau, par exemple, des maisons avec un solage très haut qui permet d'absorber une sortie de la rivière.
J'allais dire la question fondamentale. Puis là, j'essaie de toujours regarder ça dans la perspective des auditeurs. OK, tu es allé t'installer dans tel coin il y a 25 ans. Il y avait une inondation de temps en temps, mais tu n'as pas si pire. Là, il y en a eu, mettons, plusieurs, puis on en prévoit encore d'autres. Est-ce que c'est à l'État de compenser parce qu'il y a des changements climatiques? Je voyais en Californie là, puis des maisons qui étaient pratiquement là sur le bord de tomber là, puis le propriétaire disait, moi je sors pas d'ici, à moins que l'État de la Californie me rachète. Ils ont dit, on te rachète pas, on n'a pas à payer pour ça, parce que la facture serait énorme.
Mais oui. D'ailleurs, est énorme dans plein de domaines. Là. Dans les érosions que tu mentionnais, Nathalie, il y a des motels qui sont plus utilisables en Gaspésie. Il y a une maison, puis c'est drôle parce que c'est Ricardo lui-même qui l'a acheté, une maison sur le bord à Percé, très belle. Ouais. Il l'a bougé de 75 mètres à l'intérieur des terres. Ouais. Tu sais, à la limite, l'État pourrait dire, je regarde ailleurs. Et c'est les assurances puis les banques qui vont gérer le risque. Ils vont dire, moi, je ne te prête plus. C'est pas compliqué. C'est une question entre parties civiles, ce qui ne concerne pas l'État, à la limite. Là. À la limite, si l'État fait rien, les compagnies d'assurance puis les banques vont décider de gérer la situation. Maintenant, l'État doit faire quelque chose parce que dans les gens qui se sont installés, il y a des gens...
On leur a permis de s'installer là.
Attends une minute. Il y a des gens qui ont fait des pressions, des promoteurs, des propriétaires, aussi des municipalités, du feu de Dieu pour installer des maisons dans des zones 0-20 ans alors qu'on leur recommandait pas de le faire. Alors, est-ce que eux on doit les rembourser? Peut-être pas. La personne qui a une énorme maison, mettons, à 2,5 millions, qui veut se rapprocher le plus possible de l'eau, est-ce que tu dois la rembourser, cette maison-là? Peut-être pas. Fait que de commencer, ça va être très difficile de dire lui oui, lui non.
Ouais, mais on va être au cas par cas. Deuxièmement, Paul, pour répondre à ton exemple, là, si le gouvernement est confronté à 150 000, 200 000, 300 000 propriétaires qui disent, écoutez, c'est ma maison, c'est tout ce que j'ai, c'est mon patrimoine, c'est mon fonds de pension. Et croyez-moi, la pression politique va être énorme. Troisièmement, ça va prendre du courage politique, en particulier de la part des élus. Émettre des permis de construction dans des zones, effectivement, où le risque est important, d'inondation est important, c'est fini ce temps-là. Oubliez ça, ça n'arrivera plus. élus, mais il va falloir que les élus là, tiennent leur bout, comme on dit en bon français.
Nathalie, je peux proposer un juste milieu. On rembourse la valeur d'usage, on rembourse pas la valeur de vente.
Bon, vous laissez débattre de ça pendant la pause. On vous retrouve demain, vendredi.
C'est 23.